your neighbor. Can you really trust it? Who can we really trust during a time like this?
C'est Blabla Mix?
C'est Blabla Mix.
আজকে আমাদের সাথে আছে নাজার, সে আমাদের এখন আর দেশের বর্ণমর্মা বলবে। আজকে আমাদের সাথে আরেকজন উকিল আছে, তার নাম হচ্ছে মারিনোয়েল ফরি। আমি আছি যে আপনাদের সাথে দুটি গান শোনাবো, আরও আছে রিফিউজির ইতিহাস এবং অনেক অনেক গান। ভূকম্ফা বেরোনিক?
Oui, bien sûr, je parle bengali, absolument. Merci beaucoup, Shimon. J'ai entendu le nom de Marie-Noël Fréry, j'ai entendu le nom de Richard, de Nazar et de Léna, mais aussi de Super Kayor de Dakar. Dégoût, dégoût, dégoût. Blabla Mix, Hier, c'était samedi. Et la semaine dernière, nous étudions le farsi avec Aïda. Aujourd'hui, nous restons dans les langues persanes avec le dari.
Blabla world.
Oui, oh, oh, oh. Blabla words.
Blabla words. Nazar, le dari ou le pashto?
Pashto, mais comme arabique. Nous, chez nous, nous utilisons comme alphabet, comme arabique.
Vas-y, on t'écoute.
Alors, B, T, C, Jim, He, He, Dal, Zal, Re, Zé, Sin, Shin, Swat, Doat, Tue, Zwe, Ain, Ren, Fe, Kaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, He, Alab, Ye, Ye.
Ye. On va répéter avec toi. Oui.
Alors.
Allez.
B.
T.
C.
Jim.
He.
He.
Dal.
Zal.
Re. Ze.
Je.
Sin. Shin.
Swat.
Dot. Khdat.
Khdat.
Tue.
Zue.
Ein.
Ren.
Fe.
Kaf.
Kaf.
Lam.
Mim.
Nun.
Wow.
Te.
Alep.
Ye.
C'est donc, pareil. C'est pareil que le farsi. Là, c'était le dari ou c'était le pashto? Proche du micro.
Dari et pashto, la même. Les deux, la même.
Donc, finalement, avec ces alphabets, nous pouvons aller en Iran, en Afghanistan. Et nous voici. Début du XXe siècle, sont venus des Juifs d'Europe centrale qui fuyaient les persécutions. Puis, dans les années 1915, sont venus les Arméniens qui fuyaient les massacres turcs.
Puis, dans les années 1920, sont venus des Russes qui fuyaient leur révolution.
Puis, dans les années 1930, sont venus des Espagnols qui fuyaient le franquisme et la guerre, des Italiens du Sud, des Polonais qui fuyaient la misère.
Puis, dans les années 1950, les ont rejoint des Portugais.
Puis, dans les années 1960, les années de la décolonisation, sont venus des Algériens, des Tunisiens, des Marocains et des Africains de l'Afrique occidentale. Puis, au milieu des années 1970,
sont venus des Chiliens et des Argentins, des Brésiliens, des réfugiés d'Amérique latine qui fuyaient leur dictature.
Puis, dans les années 1980, après la guerre du Vietnam, sont venus des Vietnamiens, des Cambodgiens et aussi des Chinois qui commerçaient avec le Vietnam.
Puis, dans les années 1990, sont arrivées des victimes des guerres de l'ex-Yougoslavie. On en oublie bien sûr des Grecs martyrisés par leurs colonels, les Libanais éparpillés un peu partout, les affamés des grands pays désertiques.
Daniel Pénac, Eux c'est nous, un texte trouvé sur le comptoir de la librairie Les yeux dans les arbres, rue du Pavillon à la Croix-Rousse, édition Les éditeurs jeunesse avec les réfugiés.
Thank you. C'était un peu de yoga par l'oreille, un peu de relaxation, car nous venons d'accueillir notre invitée, Marie-Noëlle Fréry. Dipou, c'est à vous. Dipou.
Bonjour madame.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ici.
Pas de problème.
Qui êtes-vous?
Je suis avocate. D'accord. À Lyon et principalement, entre autres, auprès des réfugiés.
D'accord. Pourquoi vous avez choisi avocate pour les réfugiés?
Ça serait trop long à expliquer, mais envie de défendre généralement les plus faibles. Et principalement, les étrangers, les exilés sont quand même parmi les plus faibles, entre autres.
Ah, d'accord. Vous avez fait depuis longtemps?
Oui, ça fait 30 ans que je fais ce métier.
Ah, très bien. C'est... I'm going to represent myself on behalf of all refugees in FOS.
À travers toi, c'est donc tous les réfugiés qui se sentent concernés par tes questions.
Oui, je vais demander quelques questions.
Ok.
C'est bon. Je suis allé à l'OFPRA, c'est deux semaines avant.
L'OFPRA,
oui.
Tu peux nous décoder l'OFPRA, Dipou?
C'est Office français pour réfugiés administration. Mm-hmm. Comment il qu'est-ce qu'il il se cherche?
Qu'est-ce qu'il cherche? En t'écoutant.
Oui, pour donner ses statuts de réfugié.
Alors l'OFPRA, c'est une personne normalement qui vous entend, éventuellement avec un interprète.
Oui.
Il faut savoir que c'est quand même les représentants du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur réunis, et qu'ils peuvent reconnaître le statut de réfugié. Ils le reconnaissent en ce moment sur deux dossiers sur dix. C'est-à-dire 20% des gens qui passent à l'OFPRA en entretien peuvent être reconnus réfugiés. C'est la première phase pour la demande de réfugié. Mais c'est une phase importante parce que on peut y aller seul ou maintenant, depuis la loi de juillet 2015, avec un avocat ou avec un représentant d'association. Et je conseillerais vraiment d'y aller avec quelqu'un parce que ça change le rapport et l'entretien.
Mm-hmm. Dipou, tu y es allé seul ou avec un avocat?
Seul. J'étais avec moi, toute seule.
T'étais avec toi, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu savais si tu pouvais y aller avec un avocat?
Si... Et il m'a donné ses réponses de négatives. Comment je vais faire après?
Alors, après, si l'OFPRA refuse, on a un délai, il faut faire attention. Hein. On n'a que 30 jours pour faire appel, c'est très court.
30 jours.
30 jours pour critiquer la décision de l'OFPRA.
D'accord.
Surtout que maintenant, depuis juillet 2015, ils motivent beaucoup mieux leur décision. Avant, on avait 3 phrases et c'était rejet à 90%. Maintenant, on a 10 phrases et c'est rejet à 80%. Donc il faut vraiment travailler la décision de l'OFPRA, la critiquer, rédiger, produire des pièces, éventuellement être assisté d'un avocat ou d'une association, mais ne pas y aller seul, surtout pas à la cour d'asile, qui est la cour d'appel qui juge les dossiers dans un délai maintenant très rapproché, entre 3 et 6 mois.
Mais justement, trouver des preuves, en quelque sorte, comment trouver des preuves, Dipou? Tu as des preuves? Tu es parti de ton pays avec des vidéos, avec...
Ah non. oui, j'ai pas vidéo. Oui.
Et si tu as besoin d'un avocat, comment vas-tu le payer?
Oui, c'est si je vous joins une avocate pour CNDA, comment je vais...
Alors, vous avez droit à l'aide juridictionnelle à 100% sans condition. C'est-à-dire que ça peut plus être un obstacle d'avoir un avocat pour la cour d'asile. Il y a des avocats qui travaillent à l'aide juridictionnelle à Paris et en province et qui acceptent de le faire et correctement.
C'est-à-dire l'aide juridictionnelle, comment ça se passe concrètement? Dipou,
c'est un dossier à remplir. On va sur internet, aide juridictionnelle, et c'est automatique en matière de réfugiés parce que c'est l'application d'une directive européenne que la France a mis évidemment du temps à appliquer, mais ça y est. Et donc on a droit à l'aide juridictionnelle d'office quasiment. Par contre, il faut travailler avec son avocat. C'est pas seulement le fait d'avoir un avocat à une audience, ça suffira pas, mais il faut vraiment travailler dans les 30 premiers jours pour vraiment essayer de basculer la conviction des juges qui sont quand même de plus en plus difficiles à convaincre.
Alors, on est rentré dans le vif du sujet tout de suite. Peut-être expliquer aux auditeurs qui ne sont pas concernés directement à quoi sert l'OFPRA et quelle place ça a dans le processus administratif du demandeur d'asile.
Alors, l'OFPRA, c'est la première étape pour le demandeur d'asile, oui. Puisque c'est un organisme quasi administratif hein, qui reçoit pratiquement tous les demandeurs d'asile à Paris ou qui des fois se déplacent en province, mais c'est très rare. Et c'est une étape, moi je dis, elle est très importante parce qu'actuellement on peut gagner au premier stade de l'OFPRA, ce qui est totalement nouveau. Là, au mois de juillet, on a fait 5 heures d'entretien à l'OFPRA pour une personne qui avait perdu en Angleterre, qui avait perdu pour 13 ans de procédure en Angleterre. Et on dit toujours que l'Angleterre, c'est le pays des droits de l'homme. Pas toujours, elle peut faire aussi des erreurs en justice. Et donc, il faut travailler aussi au stade de l'OFPRA quand c'est possible. Quand c'est plus possible, donc ça n'a pas été...
Parlez un tout petit peu plus doucement comme ça, Dipou, pour comprendre.
Pardon,
c'est beau.
Autant pour moi.
C'est pas possible.
Quand c'est pas possible, devant la cour d'asile, l'idée c'est de travailler son dossier avec un avocat spécialisé ou des associations, ou les deux, c'est encore mieux, et préparer l'audience. Parce qu'elles sont difficiles, ces audiences à la cour d'asile.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire, lorsque, peut-être toi, Dipou, quand tu as poussé la porte, quand tu es rentré dans la pièce de l'OFPRA,
oui.
Qu'est-ce que tu as vu?
Je vois beaucoup de personnes assises.
Beaucoup?
Oui, c'est beaucoup.
Combien?
35.
Alors là, vous parlez de la salle d'attente. La salle d'attente des demandeurs d'asile,
c'est
très choquant. Il y a 30 à 40 personnes qui sont toutes convoquées à la même heure et qui parfois attendent une demi-heure à trois quarts d'heure avant d'être entendues dans le bureau d'un officier de l'OFPRA. Un bureau d'officier de l'OFPRA, c'est la moitié de votre local ici, à Radio Canu. C'est un tout petit bureau avec un officier de protection, éventuellement un interprète.
Oui, c'est deux personnes et moi.
Voilà. La deuxième porte, vous êtes deux.
Oui.
Voilà. Donc l'interprète,
un juge et moi.
Et toi.
Oui.
Alors c'est pas vraiment un juge, c'est on va dire un fonctionnaire. Alors, mais c'est pas du tout un juge à l'OFPRA.
D'accord. Alors Marie-Noël Fréry, ça a toujours été comme ça? Il n'y a qu'une personne qui va prendre la décision?
Alors à l'OFPRA, il y a deux stades. Il y a la personne qui fait l'entretien qui s'appelle un officier de protection.
Oui.
Mais ensuite, quelle que soit son opinion, et il peut avoir une opinion favorable, ça leur arrive de nous l'exprimer en entretien ou à la fin de l'entretien. Normalement, ils n'ont pas le droit, mais ils le font. Par contre, ils sont supervisés par un directeur de la division du pays, du secteur, etc. Asie, Europe ou autre. Et donc, leurs décisions peuvent être lues ou corrigées, entre guillemets. Il y a des livres qui sont sortis là-dessus, des gens de l'OFPRA qui ont été un peu dégoûtés parce qu'ils avaient des avis favorables et ils ont été, on va dire, retoqués dans leur décision. Et la décision est prise par le directeur de l'OFPRA, en fait. Donc ça peut être éminemment politique suivant les dossiers.
Et comment il s'appelle ce directeur? On pourrait l'inviter dans Blabla Mix, lui faire un gâteau, non? Est-ce qu'on peut le corrompre?
Le corrompre, je pense pas, mais vous devez le voir beaucoup, en tout cas dans les on va dire, médias classiques et officiels, il parle beaucoup. Et il a de très grandes photos de son bureau et de lui-même dans Le Monde, dans Le Figaro et partout à la télévision. Il est même en déplacement sur Calais pour montrer que l'OFPRA travaille. Il s'appelle Monsieur Brice.
Vous avez l'air ironique?
Oui, parce que le résultat, c'est que c'est quand même... C'est bien d'avoir des témoins pour les entretiens OFPRA. Ça se passe mieux. Comme par hasard, ça dure plus longtemps quand il y a un témoin. C'est-à-dire un responsable d'association qui connaît un peu le secteur géographique ou la personne, ou un avocat, pareil, qui connaît. Ça se passe vraiment mieux.
Et si, par exemple, la personne, la demandeuse d'asile ou le demandeur a des blessures de guerre pour en témoigner, est-ce qu'elle peut venir avec un médecin?
Alors, elle ne peut pas venir avec un médecin, mais je lui conseille vraiment de faire un certificat médical. Alors, sur Lyon, il y a une association, médecine et asile, ce sont des bénévoles, et il faut les contacter. Ils étaient avant l'hôpital Édouard Herriot, mais la direction des hospices civils a souhaité qu'ils s'en aillent, donc ils se sont en allés, ils sont maintenant dans d'autres secteurs, mais je crois que tout le monde connaît leur adresse, médecine et droit d'asile.
Mm-hmm. Oui, il y a combien de personnes qui font des décisions pour status de réfugié?
Combien de personnes
prennent
les décisions à l'OFPRA?
Oui. Oui.
Qu'on soit clair, il y a plus d'une centaine d'officiers de protection, mais c'est le même organisme qui prend les décisions. C'est contrôlé par les directeurs de division.
Donc en 2015, 80 000 personnes demandaient l'asile en France, 26 000 obtiennent une protection, c'est plus de 27% qu'en 2014. Donc on a l'impression que c'est quand même plutôt réjouissant, la direction actuelle.
C'est mieux, mais on peut mieux faire la France, hein, puisque si vous regardez les statistiques européennes, pour un même dossier d'un même pays, en Allemagne, on va avoir 60% de reconnaissance de statut de réfugié. En France, on est à 20 à 25%, tout compris. OFPRA plus cours d'asile. C'est-à-dire qu'en France, en moyenne, 3 sur 10 s'en sortiront avec une protection subsidiaire ou un statut de réfugié. Ce qui veut dire 7 sur 10 seront déboutés de l'asile. Alors même, et je le pense vraiment, au fur et à mesure des années qui passent et de la connaissance qu'on peut avoir, que certains auraient dû être reconnus réfugiés, qui sont déboutés, que ça va être un parcours de galère après. Et pendant ce temps, en Suède, en Allemagne ou autre, on est à 60 à 70% de reconnaissance du statut de réfugié pour les mêmes nationalités. Ce qui pose un problème parce que c'est le même texte qu'on applique. Uh-huh. C'est la Convention de Genève de 1951, mais elle est interprétée différemment suivant si on est en France ou en Angleterre ou en Allemagne.
Et comment l'OFPRA vérifie un témoignage ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce qu'ils ont des informateurs dans les pays d'origine, par exemple, imaginons, homme de Guinée-Conakry, comment on va vérifier que son histoire n'est pas bonne et qu'on va le débouter ?
Alors, ils ont au sein de chaque division des gens qui sont un peu spécialistes et spécialisés. C'est vrai, je l'ai vu pour certains dossiers. Par exemple, pour un Syrien reçu récemment, on avait un officier de protection qui parlait la langue arabe et qui connaissait la Syrie. Mais vous me direz, c'était quand même les dossiers, entre guillemets, pardon, les situations où c'est plus facile, entre guillemets, actuellement, de les reconnaître comme réfugiés. Donc, il y a des personnes spécialisées, mais pas uniquement. Donc, il vaut mieux apporter, nous, le maximum d'informations pour convaincre la personne qui est en face de nous à l'OFPRA. Mmh.
Mais pourtant, en Syrie, on voit bien, on a des preuves tous les jours qu'il y a des bombes et combien de bombes tombent dans ce pays. Donc, pourquoi, là, est-ce qu'il est possible qu'ils déboutent des Syriens ?
Ils ont débouté récemment. J'ai des collègues avec qui j'en ai parlé la semaine dernière. Ils ont débouté en considérant que ces hommes, par exemple, avaient participé à des actes de guerre, des crimes de guerre. Et dans ce cas-là, ils les excluent de la Convention de Genève. Mmh. Mais on a la possibilité de faire un recours à la Cour d'asile. C'est jamais toujours simple, ça dépend des dossiers. Mais la plupart des Syriens sont reconnus réfugiés ou bénéficient d'une protection subsidiaire. Encore heureux, on en reçoit très peu en France.
Ceci dit, toutes ces personnes, les fonctionnaires, pensent-ils que Dipou soit venu en vacances à Lyon et pour ses loisirs, pour sa passion ?
Non, j'ose pas espérer qu'on pense ça. Enfin, il faut savoir que l'OFPRA a un peu changé. C'est-à-dire que l'OFPRA, il y a 2 ans en arrière, ils reconnaissaient 1 dossier sur 10, ce qui est ridicule. Donc on n'avait quasiment aucune chance. Aujourd'hui, ils veulent montrer, par le biais de ce directeur, une, entre guillemets, indépendance. Donc ils ont monté à 20%, ce qui est déjà un petit peu mieux. Mm-hmm. Mais il va falloir qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour que prendre au sérieux l'ensemble des récits, prendre le temps aussi. Si la personne est entendue 30 minutes à 40 minutes, je dirais qu'elle n'a quasiment aucune chance d'être reconnue réfugiée, puisque ce n'est pas du travail de fond. Donc il faut pousser ces organismes, que ce soit l'OFPRA ou la Cour d'asile, à travailler encore un peu plus.
D'autant que le demandeur d'asile a dû rédiger ce récit pour l'OFPRA dans le mois qui a suivi son arrivée.
Oui, ça c'est la catastrophe, parce qu'en fait on leur demande de tout faire, en langue française en plus.
Qu'ils ne maîtrisent pas,
et en plus avec des associations qui sont de plus en plus exsangues, et qui n'ont pas vraiment le temps, puisqu'elles répondent à des appels d'offres, elles sont limitées dans le temps dans leur travail, ça pose plein de travail questions pour les travailleurs sociaux, et donc le travail n'est pas si bien fait que ça en amont, alors qu'il devrait être mieux fait pour être reconnu plus vite réfugié.
Alors imaginons que Dipou soit débouté, c'est vraiment le pire hein, que l'on puisse imaginer, Dipou. Donc il va contacter la Cour nationale du droit d'asile.
Alors s'il est rejeté par l'OFPRA, il faut contacter la Cour nationale du droit d'asile, il faut faire un recours dans un délai de 30 jours, il faut le motiver, il faut apporter des éléments supplémentaires, parce qu'il faut faire attention, la Cour d'asile peut rejeter par ce qu'on appelle ordonnance, c'est-à-dire elle peut décider de rejeter sans convoquer la personne. Et j'ai rapporté les statistiques qui sont sur le site officiel de la Cour d'asile. 20% des dossiers qui passent à la Cour d'asile sont rejetés par ordonnance. Énorme. C'est-à-dire que 6000 dossiers sur 38000 sont rejetés sans qu'ils soient convoqués en audience. Nous, ça nous met très en colère un certain nombre d'avocats et de praticiens. Ça fait du mal à un certain nombre de déboutés d'asile parce qu'ils sont même pas entendus par 3 magistrats à la Cour d'asile, puisque un magistrat tout seul décide dans son coin que le dossier n'est pas sérieux. Attention à tout ça.
Et un magistrat qui a été nommé par qui ?
Alors, les magistrats qui sont, eux, de l'ordre judiciaire à la Cour d'asile et qui statuent tout seuls pour dire oui, ce dossier est sérieux, non, ce dossier n'est pas sérieux. S'il n'est pas sérieux, d'après lui, il le rejette par un simple document et il ne convoque pas la personne à la Cour d'asile. Pour nous, c'est un des combats à mener, c'est qu'il n'y ait pas de rejet par ordonnance. Mais actuellement, 20% des dossiers. Donc, 1 sur 5 à la Cour d'asile est rejeté sans qu'il soit convoqué à la Cour d'asile. Mmh. Et ça, ce n'est pas acceptable. Il faut se battre là-dessus. Donc, il faut vraiment, vraiment dans les 30 jours, préparer son dossier au maximum.
Et si Dipou est reçu, il est reçu donc par une...
Alors non, il est reçu par trois juges à la Cour nationale du droit d'asile. Pour certains pays, il est reçu par un juge, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, ça ne concerne pas son pays.
D'accord. Vous avez prononcé l'expression en préparant l'interview de « ils régissent le flux ». Ouais. Justement la CNDA lorsqu'ils ne convoquent pas les personnes, c'est pour aller plus vite. Hein.
Oui, ils obéissent trop vite, ils obéissent. Et en avocat, on est libre hein, en France encore de dire les choses, mais les hauts magistrats de la Cour d'asile obéissent trop vite aux ordres qui ont été fixés par le législateur et par le gouvernement qui veut qu'on aille très vite et qu'on juge en moins de 6 à 9 mois. Et vous avez vu, peut-être, il y a une circulaire qui est sortie il y a 2 jours du ministère de l'Intérieur, de M. Cazeneuve, pour dire qu'il fallait vraiment sortir les déboutés d'asile des foyers le plus vite possible et les déboutés, les renvoyer dans leur pays d'origine pour permettre d'accueillir les nouveaux. C'est-à-dire que c'est la dernière circulaire de M. Cazeneuve. Bon, on n'en parle pas assez dans les médias, mais il y a donc une pression très forte sur la Cour d'asile pour qu'elle juge vite. Il suffit de monter un jour à la Cour d'asile, c'est à Montreuil, c'est facile, c'est public. Il y a 15 à 17 salles d'audience qui fonctionnent tous les jours avec 13 à 14 dossiers. Calculez si on passe une heure par dossier. Vous avez compris, on ne passe pas une heure par dossier, sauf selon les avocats, etc. Donc, il y a du massacre, ça va trop vite dans certaines salles d'audience, et ça fait mal avec les 20% d'ordonnance.
Plus les personnes, en effet, qui doivent quitter leur foyer dardard, alors que bien, ils vont se transformer en sans-papier, tous les déboutés, puisqu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays, puisqu'ils l'ont fui. Donc, ça va être quoi, la chasse à l'homme, après
Alors, c'est la chasse à l'homme, ou c'est pire que ça, actuellement, je trouve. C'est-à-dire que c'est on les laisse... Et on les laisse en se disant qu'ils vont abandonner, qu'ils vont lâcher. Surtout qu'attention, hein, dans la loi de mars 2016 concernant la réforme de l'immigration, on a rajouté en plus de l'obligation de quitter le territoire ce qu'on appelle une interdiction de retour qui concernera les 28 pays de l'Union européenne et qui empêchera les personnes de faire des demandes de régularisation pendant une période d'un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc attention à les faire au tort. Il suffit, entre guillemets, pour un gouvernement de droite comme de gauche, visiblement, hein, de laisser les gens sans papier et de les laisser traîner et de ne plus les prendre en charge au niveau de l'hébergement et surtout de ne plus leur permettre de faire une demande de régularisation. C'est applicable à partir du 1er novembre 2016.
Dipou, une dernière question pour Marie-Noëlle Fréry.
Ah oui, je connais quelques personnes qui donnaient ses fingerprints autre pays.
C'est parti dans un autre pays ?
Oui, oui. Mm-hmm. Pouvez-vous expliquer qui protocole de Dublin ?
Ah, oh là, le protocole de Dublin en 2 minutes.
Non, je pense que ce sera l'objet d'une
deuxième
émission.
Promis pour une autre fois, mais alors c'est un peu compliqué. Pardon.
D'accord, pas de problème. Merci.
Marie-Noëlle Fréry, merci beaucoup. Dipou, merci. Et comme il y avait beaucoup de contenu et de choses précises, eh bien, je vous invite, auditeurs particulièrement intéressés, et Dipou également, à écouter cette émission en podcast sur blog.radiocanu.org. Marie-Noëlle Fréry, bon retour et sans doute à bientôt.
Oui, merci beaucoup.
Blabla zik. Blabla musique.
DJ, c'est Shumon.
Bonjour à tous. Je suis Shumon avec vous. Aujourd'hui, nous allons écouter un chanson très populaire de Bangladesh qui est écrit ses chants. Son nom est Lalonsha. Il n'est au 18090. On ne sait pas s'il est né ou hindou ou une famille de musulmans. Lalon n'avait pas d'éducation formelle. Chaque année, dans l'occasion de son anniversaire de la mort, des milliers de sa discipline et de fidèles se ressemblent à Lalon Akra. Écoutez.
কতদিনে আমার মনের মানুষের শোনে আমার মনের মানুষের শোনে মিলন হবে কতদিনে মিলন হবে কতদিনে আমার মনের মানুষের শোনে আমার মনের মানুষের Honey.
Alors, je suis Schumann.
Oui. Ça, tu nous l'as déjà dit, mais tu vas nous présenter la deuxième chanson. Mais enfin, c'est bien que tu sois Schumann de nouveau. Hein. Ça, c'est vraiment ravi.
D'accord. La chanson était sélection dans le remake pour le film français. Qu'est-ce qu'on a fait au Vaudou? Écoutez, deuxième son.
Tell them,